séance?
Alors aujourd'hui, nous en avons implanté un auprès de Trivalis avant d'être aux Ajoncs.
Ouais.
Il y en a d'autres qui sont en cours de préparation, mais en allant discuter avec les entreprises, la plupart des salariés avec qui j'ai pu échanger sont plutôt enjoués envers cette démarche, parce que ça leur parle. Maintenant, les gens sont de plus en plus sensibilisés et sont de plus en plus attachés à développer des activités et un marché plus vert, plus durable avec ses partenaires.
Ce sera donc une affaire à suivre. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Entretien de Bastien Mathieu pour Graffiti.
Radio
un autre
G.
podcast
101.5 FM. Walking in the midnight sun.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture, un mercredi sur deux, les semaines paires sur Radio G. Salut les gars.
Salut.
Salut tout le monde.
Salut.
Ça alors, de quoi de on va parler ce soir, Pablo?
Eh bien, on va parler de. Alors, de séries, de polar, de BD et de musique.
C'est ça.
Les gars, est-ce que vous confirmez?
On confirme.
On confirme.
Tout ce qu'on aime.
On valide.
Ouais,
c'est on comme valide. Il a dit. On est bien, il fait chaud dans le studio de Radio G, on est bien.
Oui, muy calor.
Alors, est-ce qu'on dit muy calor en
mucho,
espagnol?
Mucho.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'on dirait mucho.
Ramucho, non, c'est ça.
Alors, exactement. On salue tous nos amis espagnols.
On dit caliente.
Nos amis espagnols qui nous écoutent.
On les embrasse même.
Voilà.
Et même on les embrasse.
Affectueusement.
Et on écoute pour démarrer l'émission.
Et moi, je fais un petit coucou quand même à nos deux chroniqueurs d'il y a 15 jours.
Ah, oui.
Ah mais oui.
Ils étaient trop mignons.
Les petits chroniqueurs en herbe.
Ah.
Et on démarre l'émission avec The Weeknd, c'est pour Paul.
Eh ben, on l'embrasse aussi.
Eh ben, gros bisous, Paul.
On est bien dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G.
Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. When I'm with you,
C'était The Weeknd avec Can't Feel My Face. Si vous aimez ça, il faut regarder Hot Ones.
Ça, ça mettra un petit peu de piment dans votre journée.
Ouh. Et on salue.
Encore, on n'est pas au week-end.
Tony.
Ouais. Eh oui, salut Tony.
Le week-end commence demain.
Et on dit à deux à l'hôtellerie en passant.
Ouais.
Le week-end commence demain et pourquoi ?
C'est le Hellfest qui commence demain.
C'est le
Hellfest. Ah, on va en parler.
Alors, tout de suite, la suite, évidemment. Pablo, tu vas nous parler d'une série. Alors, est-ce que tu veux un petit jingle série, par exemple ?
Allez, bah oui.
Allez !
Ça faisait longtemps.
Alors, ça, c'était Roland Garros, mais c'est fini.
Ouais, ouais, mais on aime bien quand même.
C'est vrai ?
Le allez !
Parlons du
micro. Oh là.
Parlons du micro, nous la remettons pas vite fait.
Tout est à la bouche, c'est ce qu'on préfère.
Ce que ne dit pas Romain, c'est que c'est lui qui fait tous les bruitages à la bouche.
Toujours. C'est important.
Allez, Pablo,
il
c'est parti.
Il est excellent, ce Romain. Bah moi, je vais vous parler d'une série qui passe sur Netflix qui s'appelle The Sinner. The Sinner, 4 saisons. C'est une série qui a été créée par Derek Simons. Une série policière, très bien construite, énigmatique et intrigante, profondément humaine et finalement addictive. Saison 1. Je vous donne 2 synopsis rapidement pour vous en parler. Le synopsis de la saison 1, une jeune mère commet un meurtre sans savoir pourquoi. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Un jour, qu'elle est sur la plage avec son mari et leur fils, Cora se jette sur un de ses voisins de plage et le poignarde à mort. Que s'est-il passé ?
C'est l'étranger d'Albert Camus. C'est l'étranger d'Albert Camus.
C'est un truc de dingue. Est-ce que c'est le soleil ? Que s'est-il passé ?
Une glissade ?
Est-elle devenue folle ? A-t-elle pété les plombs ? Connaissait-elle cet homme ? Comment peut-elle commettre un tel acte alors qu'elle nage dans le bonheur ? Bon, bref, elle semble alors perdue, comme en transe, désorientée. Plus tard, elle restera longtemps prostrée, mutique, sidérée, incapable d'expliquer son geste. Le lieutenant Harry Ambrose, qui est interprété par Bill Pullman, va chercher à déterminer l'origine de ses accès de violence en fouillant dans son passé, qui, étrangement, fait écho au sien propre. Je vous propose aussi le synopsis de la saison 2, juste pour vous intriguer aussi, enfin, vous allez chier.
C'est vrai que c'est intriguant.
Ouais, c'est assez intriguant, parce que, pareil, il part aussi sur à peu près un pitch équivalent. L'enquêteur Harry Ambrose, fait face à un autre cas dérangeant. Un garçon de 13 ans donc, aurait volontairement assassiné ses parents en les empoisonnant alors qu'ils étaient tous les trois en voyage. Lui aussi est mutique et sidéré. Lui non plus ne comprend pas ce qu'il vient de faire et est incapable de l'expliquer. Cependant, le lieutenant Ambrose ne se laisse pas facilement prendre au jeu des apparences. Encore plus quand tout semble converger dans le même sens. Là aussi, il va falloir la jouer fine pour découvrir la vérité. Alors la série The Sinner se passe en fait dans la région de Charleston en Caroline du Sud aux USA. C'est une région qui est pas très montrée souvent dans les séries. On est clairement à la campagne. L'ambiance est très souvent fermée, rustre, un peu superstitieuse. Alors justement, pourquoi The Sinner ? Qui est le pêcheur The Sinner en anglais dans cette série ? Je pense que c'est directement Harry Ambrose à sa manière, qui est pêcheur parmi les pêcheurs ou les pêcheresses. Effectivement, son passé est trouble, tout comme sa vie affective. Il est venu en eau trouble parmi les menteurs, celles et ceux qui dissimulent leurs actes et leurs identités, et encore parmi les criminels qui se cachent dans l'ombre et brouillent les pistes. Cette série nous plonge souvent dans l'inconscient des criminels ou des victimes, mais également dans celui de l'enquêteur. Nos pulsions et souvenirs, nos mécanismes de défense, les blessures et les traumatismes qui nous hantent, qui se manifestent dans ses pensées ou dans ses rêves. C'est une série qui interroge aussi notre nature humaine, pour autant qu'elle existe, notre capacité empathique à nous connecter à autrui, notre capacité à entrer en résonance avec l'autre, malgré sa différence radicale, et éprouver ses émotions comme si elles étaient siennes, à pouvoir se mettre à sa place. C'est là toute la force d'Harry Ambrose, à l'aspect passionnant, c'est aussi l'aspect passionnant de sa personnalité. Il est profondément empathique, ce qui lui permet de se connecter au suspect qu'il interroge et de faire résonner son propre inconscient avec le leur pour en extraire des vérités cachées, refoulé. S'il n'était pas flic, il aurait pu faire un excellent psychanalyste. C'est aussi un extraordinaire, son extraordinaire sens de l'empathie qui lui permet également, qui lui sert pardon de boussole et qui lui permet, comme avec un GPS, de s'orienter dans les eaux troubles de ses enquêtes, comme un instinct, un flair, qui lui permet, en fin de compte, excusez-moi, je tourne la page, d'être un détective, d'être un détective hors pair. Du coup, cela le rend génial, mais décalé, et souvent en bisbille avec sa hiérarchie et ses collègues. Rebelle, non conventionnel, mais en même temps, c'est tout son charme. Bref, The Sinner, une très belle série, bien ficelée, bien écrite et interprétée, humaine et énigmatique à souhait.
Où est-ce qu'on peut voir ça?
Alors sur Netflix. Elle est sur Netflix.
Ah oui,
ouais, voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas.
Elle y est toujours. Ça date de 2017, je vois.
Ouais, tout à fait. Elle y est toujours. Et ouais.
Il y a combien de saisons, tu sais?
Quatre saisons.
Oh.
Et qui sont en fait, qui peuvent aussi se regarder séparément.
Avec Bill Pullman.
Ouais, voilà.
Moi, j'aime bien cet acteur parce que j'adore David Lynch et c'est lui qui jouait dans Lost Highway.
Exactement. C'est bien.
Il avait un rôle important.
Ouais. Ouais,
j'aime bien cet acteur. Ok, le pêcheur, ou la pêcheresse d'ailleurs.
Ou la pêcheresse, les Québécois traduisent par la pêcheresse.
Voilà.
Mais en même temps, voilà, qui est le pêcheur dans l'histoire.
D'accord.
Impeccable, ça donne envie, en tout cas c'est chouette.
Vraiment
sympa. Merci Pablo.
Avec plaisir, les petits gars.
Alors, ça nous fait rire, mais vous pouvez pas comprendre pourquoi, chers auditeurs, chères auditrices. Mais c'est qu'il est beaucoup plus petit que nous.
Non. C'est pas la taille qui compte, les gars.
Non, petit gars. Ah non. C'est le goût. Alors,
oh là. On est parti,
on s'égare. Alors on écoute un peu de musique.
C'était chaud.
Le tigre.
Ah
yes.
Ouais.
Romain.
Geek Mafia.
Ouais.
On écoute ça maintenant.
Et, ben avec
et tu nous en parleras tout à l'heure.
Bah ouais, vite fait.
Allez,
avec plaisir.
Vous êtes sur Radio G 120.5.
Merci Romain.
Ouais, bah avec plaisir, ça faisait plaisir de partager ce petit groupe avec vous que vous connaissez peut-être. Alors, on va en dire un petit mot vite fait tout de même. Pourquoi j'ai voulu en parler? Bah parce que tout simplement après je crois 18 ans d'absence en tournée, ils retournent tout simplement et ils étaient il y a 3 jours au Trianon à Paris et ils font une tournée européenne. Et pour vous dire un petit mot quand même sur le groupe, hein, c'est si vous aimez bien le genre, je vous suggère d'aller
le
voir
Le Tigre.
Ouais, Le Tigre bien sûr. Et c'est de Kathleen Anna. Et Kathleen Anna, elle était avant dans Bikini Kill pour ceux qui connaissent et voilà, c'est ce rock là un petit peu voilà, il faut aimer ce
électroclash.
Sa voix qui est un peu particulière. Voilà, c'est une femme qui est engagée, qui a toujours été artiste. On en parlait en off, hein, donc on le dit aussi à l'antenne. Il y a pour nous qui sommes un petit peu fans de Nirvana, il y a quand même un lien aussi, puisque pour la petite anecdote, vous pourrez raconter ça au prochain repas de famille. En l'occurrence, Cobain à un moment sortait avec une fille
Courtney Love.
Avant Courtney, bien entendu, c'est voilà. Ça. Et dans un appart, il était avec elle et Kathleen Anna, que vous avez entendu. Et Kathleen Anna a tagué sur le mur de l'appart, parce qu'évidemment, appart d'artiste, c'était libre cours à la créativité. Mm-hmm. Kurt smells like Teen Spirit. Et alors, vous connaissez évidemment Smell like Teen Spirit comme un hymne générationnel des ados qui se révoltent. Mais en gros, ce qu'elle voulait dire, elle, c'est qu'il sentait, parce que Teen Spirit, c'est un déo bon marché.
C'est
donc
ça.
Donc en fait, elle voulait dire qu'il sentait.
Il l'affectionnait particulièrement.
Elle voulait dire, voilà, qu'il sentait le déo bas de gamme, quoi. Et de
en
ça,
fait, c'est devenu un peu moqué de lui, quoi.
Complètement. Et de ça, c'est devenu le titre phare générationnel que vous connaissez. Et donc voilà, tout simplement, Le Tigre à écouter. Kathleen Anna aussi, toute seule, a fait des titres qui sont super. Donc si vous aimez bien ce genre-là, un peu, des fois un peu punk, des fois un peu. Enfin, punk, attention, je sais que je le mets à toutes les sauces. Mais un petit peu punk.
Non, mais c'est je sais bien.
C'est ton choix.
Ouais. Bikini Kill, c'était punk.
Ouais, c'est ça. Et donc, faites-vous plaisir, écoutez, si vous aimez bien, c'est vraiment, elle a fait des clips qui sont en plus sympas à regarder et surtout vraiment hyper, hyper agréable à écouter. Donc, c'était un petit clin d'œil parce que ça retourne et que c'est très sympa, tout simplement.
C'est cool.
Ah non, mais moi, je savoure. Je dis plus rien, je me tais, j'écoute, j'adore.
Ça c'est Bikini Kill.
Ouais.
Avant le tigre.
Ouais. Mais là, je pense que si je dis pas de bêtises, alors vérifiez, hein, puis contredisez-moi si c'est le cas. Rappelez l'émission en urgence pour me dire que j'ai fauté.
Drilling.
Voilà. Il y a eu Bikini Kill. Il y a eu une période où elle a fait du solo, c'est-à-dire sous son nom, elle a fait des titres qui sont vraiment super cool, dont j'ai oublié bien évidemment parce que je vieillis et donc ma mémoire s'en va. L'expérience augmente. Par après le tigre, et le tigre, c'est vraiment quelques très bons titres, dont celui qu'on a passé précédemment, qui sont assez.
Ah, je me souviens, c'est The Julie Rune.
Oui, c'est ça.
Son groupe.
En fait, quand je disais solo, c'est à ça que je pensais. Et Julie Rune, il y a 2-3 titres
c'est
qui sont
hyper bien.
Ouais. Il y a 2-3 titres qui sont vraiment excellents. Moi, je l'ai plus écouté sous Julie Rune, effectivement.
Donc, 3 groupes en fait à la fois.
Ouais.
Bikini Kill, Le Tigre et Julie Rune.
J'ai bien suivi.
Bravo, Pablo.
Ouais.
10 sur 20.
Ça se prend. On prend la moyenne. C'est plus punk quand même, enfin en tout cas rock.
Ah bah, Bikini Kill, ouais, c'était punk, grunge. Ouais. Le Tic, c'est plus électro.
Ouais, c'est ça.
Rock.
Mais faut pas se leurrer, c'est aussi un peu plus dans l'actu, moderne, quoi. Voilà, forcément.
Et oui.
Donc elle était de Seattle, comme les Nirvana.
Je me demande si c'est pas une New Yorkaise.
Elle est américaine. D'accord. Elle est de Portland, dans l'Oregon.
Okay. Voilà, alors pas New Yorkaise. On était pile dedans.
Non, ouais, tout à fait.
Ah, on s'est renseigné.
Révisez votre jeu.
C'est bossé.
Cette chronique est 54 ans.
Ouais, mais.
L'âge de la maturité.
C'est ça.
Alors moi je vais vous parler de toute autre chose, hein, si on continue sur la chronique
bien
musicale.
Sûr.
Est-ce que
vous
êtes prêts?
Oui. Alors, toi tu as vu un concert.
Voilà. Alors je suis allé au Zénith de Nantes avec les gars, les deux Paul. Ah, salut les gars.
Trop bien.
Voir Ghost, le groupe de hard rock suédois. Alors Ghost, c'est un groupe très particulier parce qu'il y a toute une cérémonie, on va dire, dans un concert de Ghost. C'est-à-dire qu'il y a un décor un peu de cathédrale.
C'est ça.
Il y a un pape satanique.
Oh là là là.
Il y a des ghouls déguisés. Mmh. C'est-à-dire les musiciens sont déguisés. Là, ils avaient des masques incroyables.
Ils ont toujours des masques, non?
Ils ont toujours des masques. Ouais. Et donc Ghost, c'est un groupe qui est apparu en 2010-2011 avec leur premier album. Très très réussi, qui à l'époque était un peu une musique un peu inquiétante, on va dire. Mmh. Et puis de plus en plus, c'est devenu de plus en plus pop, en fait. Et aujourd'hui, on peut appeler ça du pop metal quasiment.
Ah ouais,
donc le public était très joyeux. Oui, parce qu'en fait, c'est du métal parce qu'il y a des grosses guitares, mais en fait, les refrains sont hyper faciles à chanter, hyper fédérateurs, entraînant, les mémorisent très très vite. Et donc, c'est un énorme succès. C'est aujourd'hui un groupe de métal hyper célèbre partout dans le monde.
Ils font tête d'affiche.
Tête d'affiche partout, en Europe, aux États-Unis, voilà. Et donc, c'était sympa de les voir. Alors, moi, je les avais déjà vus deux fois au Hellfest.
Moi aussi.
Et là, c'était sympa de les voir au Zénith parce qu'ils étaient vraiment dans leur configuration, dans leur décor. Et le spectacle a duré 2 heures.
Ah ouais,
ils ont joué que leur... Parce qu'en festival, ils jouent toujours moins longtemps.
Ouais, c'est ça.
Et là, c'était vraiment chouette. Il y avait une première partie, le groupe s'appelait Lucifer. Parce que Ghost, en fait, c'est un groupe qui joue avec l'image sataniste. Voilà. Et pourtant, c'est extrêmement populaire. Donc ça, c'est assez amusant, le contraste entre les deux. Et alors surtout, ce qui était vraiment génial, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est que l'ambiance était excellente dans la salle. Il y avait aucune agressivité, les gens étaient souriants, heureux d'être là, ils avaient envie de chanter, ils avaient envie de profiter de la soirée, c'était un samedi soir à Nantes. C'était vraiment excellent. Donc si vous voulez découvrir, on peut écouter un petit titre.
Carrément.
Leur dernier album.
Alors, ouais, qu'est-ce que tu
un morceau un peu métal parce qu'il y a des morceaux plus ou moins métal, plus ou moins pop, ouais complètement. Ouais. Et là c'est Watcher in the Sky, un morceau qu'on connaissait pas bien mais qu'on a découvert en concert et qu'on a trouvé génial
dans le film.
Sur Radio G, 101.5, la radio qui fait le point.
On n'est pas bien là ?
Si. Super bien.
Mais pas là, fraîchement.
Non.
Non.
C'est ça.
Allez,
mais décontracté.
On écoute.
Yeah.
Et voilà, c'était Ghost avec Watcher in the Sky, tiré de l'album Impera.
Et ben c'était sympa.
Ouais. Ah, c'est pas mal. Hein,
ouais, ouais, très sympa.
Ça s'écoute bien.
Ouais.
Carrément. Ouh. Bah, du coup,
on n'a pas envie que ça s'arrête.
Il y a un petit pont vers le Hellfest là.
Alors il y a un petit pont vers le Hellfest, merci Pablo. Il est fort pour les enchaînements.
Non mais puis en plus c'est assez près géographiquement. Nantes, on glisse vers Clisson.
Exactement.
Donc on est pas mal.
Tout doucement. En gênant de Clisson, alors ça commence demain. Demain c'est le Hellfest. Alors cette année c'est une année encore spéciale. L'année dernière il y avait eu deux week-ends. Là c'est un seul week-end mais de quatre jours. Donc ça commence demain et puis ça continuera jeudi, vendredi et samedi comme d'habitude. Mm-hmm. Alors on en a déjà parlé, on a fait une émission spéciale, mais on peut évoquer très rapidement les têtes d'affiche. Hein. On aura Iron Maiden, Kiss. Def Leppard, Motley Crue, Pantera qui se reforme, Slipknot, enfin Sum 41, enfin alors, plein de têtes d'affiche très sympa. Et puis plein
Arch
de
Enemy.
Groupes à découvrir. Ouais. Voilà, Arch Enemy si on aime le death metal et d'autres.
Alors, Parkway Drive.
Parkway Drive, c'est ouais. Ma découverte excellente du metalcore. Ouais. Évidemment, les Melvins.
Oui. Mais là, on les découvre plus. Hein, c'est...
Ah, on les adore.
Il n'y a pas les Zwinkels aussi?
Il y a Zwinkels, voilà. Zwinkels. Si vous aimez le hip-hop.
Donc, jeudi ou vendredi?
C'est toute la question. C'est ça. Donc en fait, c'est pour rappeler aux auditeurs et aux auditrices, hein, il y a plusieurs scènes. Ouais. Il y a des scènes extrêmement consacrées au métal extrême. Il y a des scènes punk, hardcore. Il y a des scènes plutôt psychédéliques. Et il y a même des groupes complètement différents, en fait, hein, comme Zwinkels, qui est plutôt du hip-hop. Mais voilà, au Hellfest, finalement, c'est l'éclectisme.
C'est ça.
C'est comme dans Band Geek Mafia.
Exactement. Le 110 mètres, ouais. Mais d'ailleurs, c'est une tradition, Hellfest, hein, d'inviter tout le temps des gens qui viennent un peu. Je me rappelle une année, il y avait Iggy Pop.
Ouais, voilà, ils se font plaisir. Hein, ouais,
parce qu'ils sont différents, mais justement, ouais.
Ils se font plaisir. Et le public est tellement ouvert, parce que le public métal est quand même hyper ouvert, hyper tolérant, enfin, contrairement à l'image qu'on peut véhiculer parfois dans les médias, que ça se passe toujours très bien. Voilà.
Donc, carrément. Je dirais même que c'est un public mélomane. Quoi. Moi, ce qui m'a frappé au Hellfest, c'est que les gens, en fait, écoutent vraiment la musique.
Ils s'amusent avec modération.
Voilà, ou pas, mais en tout cas, ils sont là pour s'amuser et surtout pour écouter de la bonne musique. Ouais, et ça, c'est chouette.
Alors, en parlant de bonne musique qui n'a rien à voir avec le métal, Romain, tu nous parlais de Mil Pasos de Soa. Qu'est-ce que c'est,
Soa? Eh ben, c'est une chanson.
C'est pas le Paso de l'Ebro, hein.
Non, mais en fait, c'est l'occasion de saluer, d'embrasser un collègue qui m'est cher, orléanais, lui faire un petit coucou. Je sais qu'il aime beaucoup ce titre. Donc
on l'embrasse. Alors.
Voilà, Pierre Fille, on t'embrasse.
Et puis,
amuse-toi coucou. Bien et viens nous voir du côté d'Angers, voilà, tout simplement.
On écoute ça tout de suite dans Monde Geek Mafia.
Avec plaisir.
Sur Radio G.
Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas. Je suis si loin déjà.
Volverás un día o jamás. Y cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverás,
yo tú no m'attends. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos sin más me quedo de pie.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
si tú no m'attends pas.
Cuando volverá,
j'ai fait le premier
cuando
pas.
Cuando volverá.
Thank you.
Pas toute seule, il y a un gars avec.
Mais oui, mais oui. C'est ce qu'on disait en off. Je sais pas qui c'est, mais sa voix me fait penser à Alejandro Sanz. Et je sais pas si c'est lui, mais ça y ressemble beaucoup en tout cas.
Ouais, sauf que l'indication nous disait que c'était apparemment un grec.
Non, non, il y avait des commentaires en grec. Mais...
C'était Demis Roussos en réalité.
Peut-être. Voilà, peut-être.
En tout cas, c'était vraiment sympa. Merci pour cette découverte.
Merci
pour
cette découverte.
Pierre Fille, merci. Merci pour le pied. Petite passe D.
Creature Shock Radio FM. Seb, qu'as-tu dans ton panier BD ce soir?
Bah, deux petites bandes dessinées comme d'habitude. Une ben petite bande dessinée.
Ça parle d'histoire?
Bah, on change pas, hein. On change pas, je crois qu'on va pas me changer.
Ah non, on peut pas.
On peut pas. Et puis là maintenant, je suis arrivé à un âge où on pourra plus me changer. Oh. C'est terminé.
Oh, il faut jamais dire jamais.
Non, mais j'ai pas dit jamais justement. Donc une bande dessinée assez sympa parce que c'est une histoire que j'avais que je connaissais finalement par l'intermédiaire d'une autre bande dessinée qui s'appelait Le Petit Théâtre des Opérations qui en avait évoqué normalement dans le tome 2.
Oui.
Et là cette fois-ci donc on a l'histoire de Eugène Bullard, pilote dans l'armée française, et le titre c'est Enfin je vole. Ronald Wimberly et Bram Revel aux éditions Marabule vont nous raconter tout simplement la vie de Eugène Bullard qui a grandi dans le sud des États-Unis et au final sa quête de liberté l'a conduit à Paris dans un spectacle burlesque, à un ring de boxe, des tranchées boueuses à l'immensité du ciel. En 1914, Bullard a pris part à la Première Guerre mondiale en combattant pour la France avant d'entrer dans l'histoire en devenant le premier Afro-Américain pilote de combat. Et donc, ce que j'aime bien aussi, c'est la citation qui est de Eugène Bullard lui-même. « La France m'a donné la vraie signification de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. » Donc ça, je pense que ça peut être pas mal, ça, à réfléchir aussi en même temps. Petit sujet de philo, non?
Et alors, si je peux me permettre une petite question, Seb, quel public ça vise en fait cette BD? Juste pour savoir si justement, par exemple, dans le cadre de nos activités, hein, sans faire de grands mystères, ça pourrait être quelque chose à exploiter avec des élèves.
On peut largement l'exploiter avec nos élèves parce que donc justement, on part de la condition des Afro-Américains au début du XXe siècle aux États-Unis, cette fuite en avant aussi, cette volonté d'essayer de trouver plus de liberté. Et puis, c'est arrivé, cette découverte aussi, quand ils réussissent à franchir l'Atlantique pour arriver notamment en France et au Royaume-Uni, trouver cette liberté et après, justement, l'histoire fait que, à une période, à un moment donné, ils retournent quand même dans leur pays d'origine. Oui. Et là, ils sont confrontés. Pour eux, c'est vraiment un choc parce que, voilà, quoi. Après avoir goûté à cette liberté, à cette reconnaissance, ils sont considérés comme des moins que rien. Par exemple, Eugène Bullard, il faut bien savoir qu'il a terminé sa vie comme lifter. Donc celui qui fait monter les ascenseurs, groom, ouais, presque. Dans l'Empire State Building, hein, quoi dire, il était comme ça, donc il faisait ça. Et au moment où malheureusement il décède, en réalité personne ne peut l'enterrer parce que il a terminé sa vie pauvre comme il l'avait commencé. Et là, par contre, juste pour terminer quand même sur un petit point, comme il était engagé dans la Légion étrangère, c'est la Légion étrangère qui a rapatrié son corps et lui a donné une sépulture digne de ce nom.
D'accord.
Eu égard à ses
états de service.
À ses états de service.
Mmh. Très bien. Vous avez remarqué la cohérence avec la musique?
Carrément. Nina Simone.
Et elle aussi a été obligée de quitter les États-Unis, venir en Europe pour avoir une carrière. Un succès.
Sidney Bechet aussi en même temps. Il y en a beaucoup comme ça là qui étaient.
Nina Simone qui n'a jamais pu intégrer le conservatoire de piano
Ah non.
Parce qu'elle était noire. Et donc, du coup, dès qu'est devenue Nina Simone. Excuse-moi, c'est
Ah oui, non, mais moi, je vais terminer simplement par une petite citation aussi encore. All blood runs red, tout sang coule rouge aussi en même temps. Donc, peu importe la couleur de peau.
Paf.
Donc voilà.
Merci Seb.
Ça c'était.
Il y en a une autre.
Wouh.
Je crois qu'on change de registre.
On change de registre, oui, non, pas vraiment.
Ah.
Le Naour, Marco et Olgado, aux éditions Grand Angle, nous proposent l'histoire du réseau Comet, la ligne d'évasion des pilotes alliés. Alors ça c'est pas mal, ça, honnêtement.
C'est pointu. Hein.
C'est extrêmement pointu. Alors c'est une bande dessinée qui est faite aussi en association avec la mairie d'Anglette. Donc il y a une association par rapport à ça. Des centaines de résistants de l'armée des ombres, discrets, silencieux, organisaient le plus grand réseau d'évasion de la Seconde Guerre mondiale. Son but, conduire des aviateurs de Belgique jusqu'au Pays Basque, en évitant les patrouilles allemandes, les gendarmes de Vichy et les gardes frontières franquistes. Voici l'histoire d'une montagne indomptable, d'une comète qui traversait la France en déchirant la nuit de l'occupation. L'histoire d'hommes et de femmes rebelles dont la liberté guidait les pas. Un ordre de la nuit sans lequel rien n'aurait été possible. Et donc là, on découvre cette histoire qui est plus ou moins méconnue de ce réseau donc que l'on appelle Comet et qui reprend au final ce que l'on appelle aussi les helpers. Les helpers, tous ceux qui ont aidé justement.
Comme leur nom l'indique.
Oui, tout à fait. Oui. Toutes les personnes qui ont aidé finalement les pilotes alliés qui se faisaient abattre au-dessus de l'Europe et qui essayaient de regagner finalement le Royaume-Uni pour continuer la lutte contre le nazisme. Donc voilà, c'est une histoire que voilà, je l'ai découvert par hasard et puis effectivement, c'est pareil, hein, ce réseau, je ne le connaissais pas, cette histoire, on ne la connaît pas forcément. Ce qui est intéressant, donc graphiquement, on a quelque chose de vraiment sympathique. On a un système de flashback aussi en même temps, parce que c'est la dernière personne membre du réseau Comet qui est interviewée. Donc on a le dessinateur qui se met en scène aussi en même temps, le scénariste. Et puis on termine quand même avec un petit cahier aussi.
Ça, oui, un petit dossier.
Un petit dossier.
Tout à fait.
Tout à fait. Et puis surtout, comme on dit, comme c'est pour rendre hommage aussi à ces personnes, eh bien vous avez la liste des membres du réseau Comet au Pays Basque. Avec leur devenir malheureux ou heureux. Voilà.
Ce réseau Comet, c'était donc eux les aidants, quoi.
C'est eux les helpers, quoi. Ils font partie. C'est un réseau d'helpers, parce qu'il y a plusieurs réseaux d'helpers.
D'accord.
Donc, mais celui-là partait de la Belgique pour aller justement jusqu'au Pays Basque, jusqu'à la frontière espagnole, et on voit que c'était quand même pas si facile que ça de passer justement en Espagne.
C'est super chouette d'avoir des BD qui justement rendent hommage à des pans comme ça de l'histoire qui sont méconnus. C'est vraiment hyper intéressant. Et puis effectivement, en plus de ça, c'est un bel objet. Hein. C'est très joliment dessiné.
Ouais,
c'est
aux éditeurs. Ouais.
Ouais. Non. Honnêtement, là, on a deux belles bandes dessinées. C'est pareil. Hein. Eugène Bullard. Graphiquement, bon, certains ne vont peut-être pas apprécier, mais il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de couleurs.
Non, c'est particulier. C'est un style.
Mais voilà, on accroche. Tout n'est pas dit par les bulles. Il y a aussi la force du dessin, quoi. Donc, et non, honnêtement, c'est carrément génial.
Bah, merci pour ces découvertes.
Est-ce que vous voulez écouter une petite musique avant de passer au livre?
Oui.
Qu'est-ce que tu
nous proposes?
C'est Pablo qui nous propose. Billy Eilish.
Bad Guy. D'accord.
Dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G, passons 1.5, la radio qui fait le point.
White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Around like no one knows, think you're so criminal. Bruises on both my knees for you, don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I like it when you take control, even if
reach all the leave you still pity the men I know. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
C'était Billie Eilish avec Bad Guy dans Bande Geek Mafia.
Proposé par Pablo, le mauvais garçon de l'équipe.
Qui va nous parler d'un polar avec plein de mauvais garçons.
Ah bah ouais, justement, un très mauvais garçon. Alors du coup, j'enchaîne les gars. Bah oui, un polar de Franck Tillier.
Ah, j'adore.
Déjà qu'il y a un mauvais garçon du polar, mais qui vend énormément. Il est édité au Fleuve Noir et je vous propose 1991.
Tu sais que je l'ai interviewé, moi, Franck Tillier, il y a quelques années. Ouais.
Non, si. Oh la vache.
À Angers, c'est très sympa. Et il était surpris parce que j'avais lu ses bouquins.
C'est
il m'avait dit, bah, vous êtes le premier journaliste à avoir lu mes livres.
Quand même.
C'est dommage, parce que avec la qualité.
C'est la base.
Et donc, il m'en avait dédicacé quelques-uns, c'était sympa. Il est très sympa.
Trop bien. Bah, tu m'étonnes. Et je pense qu'il est hyper intéressant.
Ouais, carrément. Bah, un scientifique au départ.
Mais ouais, parce qu'on sent qu'il s'intéresse à vraiment, mais plein de trucs. Alors, justement, dans 1991, il vous emmène dans le vaudou haïtien, les zombies, vous savez, ces faiseurs de zombies vivants. Il nous emmène aussi, bah, dans des scènes de crimes incroyables. Bon. Alors, c'est sombre. C'est du Tillier. Un polar sombre et sanglant, angoissant parfois, très bien construit et d'une belle efficacité. La première enquête de Franck Charcot. En décembre 1991, quand Franck Charcot, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des disparus du sud parisien. L'état des lieux est simple. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours. Charcot consacre tout son temps à ce dernier, jusqu'à ce soir, où un homme paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo figure une femme couchée dans un lit, les mains attachées au montant, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse et qui va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu imaginer. Le roman est donc construit sur une double intrigue. Le personnage emblématique de Tillier s'appelle Franck Charcot, surnommé Shark, évidemment, car il est agressif et ne lâche rien.
Comme un requin.
Voilà, et c'est lui le bad boy. Il flaire le sang, il sait naviguer en eau trouble. Charcot est sombre, pourtant il aspire à la lumière. Et c'est là tout son charme. Cette histoire se passe donc en 1991, année charnière. Les flics travaillent encore à l'ancienne. On est encore sur le Minitel, les gars, je vous rappelle. Dans une des premières scènes, Charcot cherche une cabine téléphonique pour alerter ses chefs.
Ah oui.
Mais les ordinateurs font leur apparition et c'est le début des tests ADN qui vont tout révolutionner. La période est donc particulièrement intéressante. Charcot a 30 ans. Il vient d'intégrer la prestigieuse brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. On va donc apprendre comment il est arrivé là, pourquoi il a choisi de mêler et de se mêler de ces histoires de flics, et quel est son état d'esprit. Lui qu'on a toujours connu, fracassé dès les premiers épisodes de ses aventures, paru en 2004. Bien sûr, comme tout bon thriller, tout commence par la découverte de la scène de crime. Franck Thillier est un maître en la matière, c'est la scène inaugurale du roman. Il s'agit de mettre le lecteur en condition de lui promettre des émotions fortes, de lui procurer ce mélange de peur et de plaisir sur lequel fonctionne le genre. Le plus spectaculaire possible, la scène de crime annonce la partie d'échec qui va se jouer avec son auteur, un tueur retors, extrêmement intelligent, qui va défier la police. Ici, il est cultivé et a de multiples références littéraires. C'est dire s'il est peu représentatif de la réalité, puisque dans la vraie vie, la plupart des tueurs sont le plus souvent des brutes. Mais bon, la puissance du roman, et notamment du polar, en l'occurrence, est de faire de l'assassin une figure centrale du mal, aussi intéressante, intrigante que celle de l'inspecteur chargé de l'arrêter. Si vous voulez connaître les origines de Charcot plongé dans l'obscurité de 1991 de Franck Thillier, frisson garanti, les gars.
Oh. Et oui. Moi, j'aime bien cet auteur. Il écrit beaucoup de romans et de polars, de thrillers. Moi, je me souviens de La Forêt des Ombres,
oui.
Deuil de miel.
Ouais. La Chambre des Morts aussi.
La Chambre des Morts.
C'est le premier que j'avais lu. Enfin, il a fait aussi un Charcot.
Ouais,
et alors après il y a une trilogie de la violence, Syndrome E, Gattaca,
ouais,
et puis un truc
c'est ça.
Dont j'ai oublié le nom, mais enfin vraiment. C'est peut-être ça. Il publie beaucoup,
ouais.
Mais en même temps c'est tout le temps de qualité. C'est ça qui est assez impressionnant.
Ouais, c'est très bien écrit. Et puis il a un mérite, hein. Il est né en 1973.
Voilà.
Belle année.
C'est sa meilleure année, ça.
Faut le dire.
C'est pas 84, mais c'est pas mal.
Non, 73 c'est mieux.
Il a gagné la Coupe d'Or.
Merci, Pep.
Bah c'est toi qui l'as choisi, c'est Lana Del Rey.
Ah mais oui, parce que Lana Del Rey a sorti un album, enfin son 9e album si je ne me trompe pas, et je sais que c'est une espèce de prêtresse attendue.
J'ai mis ça en fond sonore, je pense que c'est.
Voilà, bien. Voilà, et donc spéciale dédicace à ma fille Gabi.
Qui aime beaucoup Lana Del Rey.
Et bon, la salut.
C'est vrai ?
Bah ouais.
C'est sympa ?
Ah ouais, elle adore.
Alors là, on va complètement changer de style parce que Romain
nous
propose The Hives. Alors The Hives, c'est aussi un groupe suédois comme Ghost, mais de rock'n'roll.
Et puis c'est l'occasion de passer un petit coup à Florence.
Ah bah carrément.
Parce qu'elle aime bien les Hives. Et puis c'est un titre qui est court, punchy, qu'on adore.
Florence, elle les a vus au moins 3 fois. Moi, je les ai vus 2 fois, et à chaque fois, c'est le meilleur groupe du monde.
C'est ça.
Dans Bande Geek Mafia
sur Radio Geek 105.
Ça m'a fait double plaisir.
Le chanteur
tu l'imites très très bien.
Voilà. Alors, l'intérêt de The Hives, c'est que c'est court et c'est bon.
Ah oui, c'est ça, ouais.
Et ça met la pêche.
That's what she said.
Exactement.
Alors, Pablo, le théâtre.
Alors, au théâtre, ce soir.
Est-ce que tu veux un petit jingle le temps de se préparer parce que tu le mérites.
Allez.
C'est vrai.
Allez.
T'as l'air d'être étonné qu'il le mérite en disant c'est vrai.
Non, je suis étonné qu'il ne souhaite pas démarrer directement.
Ah, d'accord.
Un petit jingle. Mais il a bien raison. Voilà, c'est parti.
Ah ouais, les
Hives
encore.
Hey,
tu sais.
Tu t'entends derrière.
Ah ouais, cool. Le mashup de l'enfer.
Alors,
Head to say Antonio,
hey, pas mal celui-là.
Hein, c'est pas mal.
Il assure.
Allez, c'est parti.
Bon, alors moi, je vais vous parler du nouveau théâtre populaire. Ouais. C'est une compagnie de chez nous, qui est en Anjou, qui vient de chez nous.
Le terroir,
qui est à Fontaine-Guérin, en
alors,
Anjou.
C'est dans l'est.
Exact. Voilà, c'est
non,
ça.
Nord-est. En ouais. direction de Bouger.
Ah ben là, je fais parfaitement confiance au géographe que vous êtes. Et alors, figurez-vous que la fin de la saison du Quai, donc c'était début juin, je suis allé voir trois Molières et ils proposaient trois pièces de Molière enchaînées. Ouh. Donc nous avions le Tartuffe qu'ils appellent donc
le Tartuffe enchaîné.
Eh ben non, qu'ils appellent le ciel, le Tartuffe qui est magnifique, en forme classique, la nuit, c'est Don Juan. Et puis enfin la fête. Alors la fête, c'est un opéra ballet à la base, c'est plutôt un théâtre ballet,
une
pièce et c'est Psyché. Et alors là, par contre, pour
finir
la soirée,
c'est une comédie ballet, je crois.
C'est une comédie ballet. C'est le mot qui me manquait. C'est une comédie ballet, et sauf que eux, ça devient un spectacle drag queen, un spectacle queer, un spectacle
dionysiaque.
Ah oui, ah mais si.
Oh, quoi que.
Alors, on retrouve du Molière.
Alors, justifiez ça un petit peu. Moi, je vous oblige un petit peu à argumenter, les gars.
Mais c'est incroyablement bon. Et
d'argumenter,
oui. Alors voilà, donc c'était vraiment des spectacles magnifiques. Je vous invite à les revoir parce qu'en fait ils vont continuer à les jouer chez eux, et notamment ils vont les tourner en Anjou. Donc vous pouvez
donc
les retrouver.
Ah, donc tout l'été on va pouvoir les voir.
Vous allez pouvoir les voir.
Peut-être à Saint-Rémy-la-Varenne.
Voilà, il y a plusieurs dates qui sont proposées. Il y a une tournée Molière donc qui est proposée. Il y a aussi un festival. Alors ça c'est leur festival qui est fin août. Du 19 au 31 août.
Ah, c'est ça.
Fontaine-Guérin. Là, ils vont vous proposer le conte d'hiver de Shakespeare. Ils vont vous proposer le soulier de satin de Claudel. Mais également, alors après, il y a des spectacles pour enfants. Vous allez retrouver Orson et Valentin. Vous allez trouver Wendy et Peter Pan. Barbie.
La Reine des Neiges.
Mais ouais, je leur fais confiance pour une telle association. Mais effectivement,
je crois que c'est Barry. Excuse-moi, pas
moi. Ouais, c'est de Barry. Excusez-moi, c'est Barry.
Oui, parce que Barbie.
Ouais, Barbie. Mais ça aurait été possible vu comme ils sont fous. Ce qui est très sympa, c'est que vous êtes accueillis chez eux dans un très bel espace qui est au-dessus du clocher. Le spectacle commence au coucher de soleil. Ouh. Et voilà, tout est bio, tout est très sympa, un très bel accueil. Ils viennent directement vous accueillir, puis après ils jouent pour vous. Bref, c'est aller voir le nouveau théâtre populaire.
Pardon, excuse-moi Pablo.
NTP.
En plus de la tournée Molière, il y a le spectacle de Shakespeare et de Claudel pour les enfants.
Et pour les enfants.
D'accord, OK.
Donc vraiment aller voir
pour
sur leur site.
Hein.
Ouais, absolument. Allez voir sur NTP. Leur site, le NTP. Franchement, on les trouve très facilement.
Et je vous dis.
Et donc, y a des choses qui vont se passer en juillet pour les Molières, en août pour le Shakespeare, le Claudel et les autres. Et puis en septembre, il y a la tournée des Vendanges. Et là, c'est pareil, ils viennent dans
carrément.
Des petits lieux.
Ah ouais, carrément. Tournée des Vendanges.
La tournée des Vendanges. Donc là, c'est théâtre et vin.
Sympa.
Et c'est plutôt sympa.
Merci Pablo.
Avec
on aime
plaisir.
Ça.
Ben ouais.
C'est bientôt la fin de cette émission, les gars. Il reste 4 minutes.
Wow. C'est triste.
Alors, c'est Blur.
Alors ça, c'est Blur. C'est le dernier album. C'est le dernier morceau de Blur.
C'était pour vous dire au revoir.
Ben ouais.
Ben oui.
C'était Band Geek Mafia. Notre émission Info Culture.
On adore.
Un mercredi sur deux sur Radio G.
Et quel est le titre de ce petit de
narcissiste.
Ah, très bien, très bien.
Je sais pas à qui ça s'adresse. Mais je le disais, les gars.
Yes.
Puisqu'on est entre nous.
Oui,
personne nous écoute, tu peux y aller.
Personne nous écoute. On pourrait profiter du morceau de Blur la prochaine fois et peut-être rendre hommage à Tina Turner.
Mais oui, c'est vrai. Moi je pense qu'il faudra lui rendre hommage.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Notre chère Tina.
Eh ben écoute.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir, rendez-vous dans 15 jours.
We don't need another hero.
C'est vrai. Pardon.
Ouais.
À chaque fois, c'est vrai.
Ben, je pense qu'il faut le chanter. Ça.
Exactement. Ouais.
Et on vous conseille d'aller faire un karaoké. Parce que moi, j'en ai fait un samedi dernier. Eh ben, c'était top.
Et c'était où? Est-ce que tu peux nous donner l'adresse?
Unicorn House. C'est à Angers, à Belle-Beille.
Ben, on leur fait la
donc,
pub,
c'est un skate park. Alors oui, on ne fait pas de pub. Hein. C'est un skate park. On peut manger, on peut boire, on peut lancer des haches.
Ah,
on peut jouer au billard, on peut jouer au flipper, on peut jouer aux jeux vidéo. Et on peut chanter dans des salles privatisées. Hein. On réserve sa petite salle et là, on peut se lâcher.
Est-ce qu'on peut jeter des haches sur les gens qui chantent mal?
Non.
Ah, pardon. c'était juste pour savoir si.
Juste les arroser de terre.
T'as une drôle d'occupation.
J'aime bien varier les plaisirs. Et moi, je vais vous dire qu'on va y retourner. Et peut-être que ce serait sympa qu'on fasse ça pour l'équipe de Band Geek Mafia.
Ah, mais carrément. Exact. Carrément. On fera un reportage.
Allez, on vous dit à dans 15 jours. On reparlera du Hellfest, bien sûr, et de tout ce qu'on aime. Et on rend hommage à la grande Tina Turner.
Et bon, on embrasse tout le monde.
Salut.
Et on vous dit à tout le monde.
Ciao les gars.
À dans 15 jours.
À bientôt. Coming. All else are castles built in the air.